RCF. RCF, il est 19h. Le journal, Jean-Baptiste Labeur.
Bonsoir à toutes et à tous. Bernard Laporte en garde à vue, le patron du rugby français visé par une nouvelle affaire judiciaire. On y revient dans un instant. La réforme des retraites avec une menace de grève reconductible à la SNCF pour les vacances de février. Le gouvernement, de son côté, bat le rappel de ses troupes en la perspective du texte à l'Assemblée. Il y a tout juste un an éclatait le scandale Orpea et mettait en lumière les conditions de vie dans les maisons de retraite. Focus ce soir sur un autre mode de placement des personnes âgées, plus humain. Bernard Laporte est en garde à vue depuis cet après-midi. Le président de la fédération de rugby qui s'était mis en retrait est visé par une enquête lancée en 2020 pour blanchiment de fraude fiscale aggravée. C'est ce que précise le parquet national financier. Mais l'affaire est distincte de celle pour laquelle Bernard Laporte a été condamné le 13 décembre dernier. Célia Gutti.
Cette enquête n'a en effet rien à voir, selon une source proche du dossier, et aussi différente de l'affaire de corruption passive et trafic d'influence pour lequel il a été condamné il y a moins d'un mois. Il a été reconnu coupable de 5 des 6 chefs d'accusation et condamné à 75 000 euros d'amende et une interdiction d'exercer une fonction en lien avec le rugby. Condamnation pas encore effective. Mais cette nouvelle enquête tombe mal pour le patron de la FFR. La date est même scandaleuse pour son avocat, maître Jean-Pierre Versini-Campinci. C'est cette semaine que les 1500 clubs français votent pour valider la nomination de son vice-président Patrick Buisson à la tête de la fédération, à sa place. La semaine dernière, ce dernier avait déclaré vouloir incarner la fin des affaires et sonner le rassemblement avant le coup d'envoi de la Coupe du Monde en septembre prochain.
Un scrutin donc qui se déroule jusqu'à jeudi. Justice, toujours la Cour d'appel de Paris a confirmé aujourd'hui l'ordonnance de non-lieu dont a bénéficié en juillet dernier le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui était accusé de viol depuis 2017 par Sophie Patterson-Spatz. Cette dernière va toutefois se pourvoir en cassation. Un religieux des frères de Saint-Jean, Benoît-Emmanuel Pelletereau Villeneuve, renvoyé de l'état clérical par le pape François. Il avait fait l'objet de signalements pour de graves agressions sexuelles. Les faits reprochés remontent aux années 90 pour les plus anciens. La France a rapatrié 15 femmes et 32 enfants des camps de prisonniers djihadistes en Syrie. Aujourd'hui, Paris met fin à sa politique progressivement du cas par cas. Les adultes ont été remis à la justice. Les mineurs, eux, ont été remis au service chargé de l'aide à l'enfance et feront l'objet d'un suivi médical. Le trafic sera fortement perturbé demain au départ ou à l'arrivée de la gare de l'Est à Paris, avec par exemple un TGV sur 3 selon la SNCF. La circulation a été quasiment paralysée depuis ce matin dans cette grande gare parisienne à la suite d'un incendie volontaire sur des câbles électriques dans un poste d'aiguillage en Seine-et-Marne. Une enquête a été ouverte. La réforme des retraites maintenant et la CGT, cheminots et Sudrail menacent d'une grève reconductible si le gouvernement ne retire pas son projet. Une première étape est fixée pour les 7 et 8 février prochains. Les syndicats ont en outre appelé les cheminots à agir massivement par la grève le 31 janvier, deuxième journée de mobilisation. De son côté, aujourd'hui, la NUPES a souhaité déposer une demande de référendum sur la réforme des retraites. Du côté de la majorité, cette fois, le gouvernement va battre le rappel pour mobiliser ses députés. La première ministre Elisabeth Borne doit d'ailleurs présenter ses vœux à la majorité ce soir, alors que certains éléments n'hésitent pas à exprimer tout haut leurs réserves. Baptiste Maligné.
Sur l'aile gauche de la Macronie, par exemple, le député Renaissance de l'Hérault, Patrick Vignal, ne veut pas voter le texte actuellement sans modification. Même chose pour l'ancienne ministre Barbara Pompili. Au centre, le député Modem Richard Ramos ne se prive pas de dire que le gouvernement se trompe et qu'il fallait un système par points. Même chose du côté de Jean-Charles Larsonneur, du parti Horizon d'Édouard Philippe, qui dénonce même une paresse intellectuelle. Enfin, chez les alliés de circonstance, les Républicains, pas question là aussi de donner un blanc-seing, le député Pierre-Henri Dumont veut encore négocier.
On est à la moitié du chemin. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut qu'on l'améliore sur certains points, en particulier sur la question des carrières des femmes, qui aujourd'hui sont perdantes dans la réforme de la retraite telle que présentée par rapport à la situation actuelle, en particulier celles qui ont des carrières hachées. sur la situation également extrêmement préoccupante de ceux qui ont commencé le plus tôt, puisqu'il y a une question de justice sociale qui aujourd'hui n'est pas au rendez-vous pour le moment.
Même discours du côté du vice-président du parti, Aurélien Pradié, qui veut lui aussi fixer des conditions à son vote.
À 549 jours des Jeux Olympiques de Paris 2024, une nouvelle étape dans l'organisation. Aujourd'hui, les sénateurs ont discuté sur le projet de loi olympique qui prévoit notamment l'ouverture des commerces de la capitale de dimanche, de juin à septembre. Mais c'est surtout le volet sécurité qui a inquiété. Vidéosurveillance massive, scanners corporels ou caméras augmentées. Le texte n'a rien de sportif et porte même atteinte aux libertés, selon cette chargée de campagne de la Quadrature du Net, qui souhaite conserver l'anonymat.
Les Jeux Olympiques sont vraiment un prétexte et c'est une opportunité pour le gouvernement de faire passer cette disposition. Et ça faisait longtemps qu'il voulait la faire passer, d'abord dans la loi sécurité globale, ensuite dans la LOPMI et maintenant dans la loi olympique. Ça vise à répondre à une demande de la police et des industriels de pouvoir surveiller tout l'espace public et de détecter ces comportements qui sont dits anormaux et dits suspects. Également aussi le fait que ce soit fait de manière très opaque. Ils veulent le faire passer dans une loi pour les Jeux Olympiques. C'est un dispositif qui est dit expérimental pour les Jeux, mais déjà on voit que dans ce projet de loi, ça irait de 2023 à juin 2025, donc c'est plus large que seulement les Jeux Olympiques. Ça pourrait être utilisé pour tout événement récréatif, festif, culturel. C'est vraiment un moment pour tester tous ces algorithmes-là pour les déployer de manière généralisée sur tout le territoire et pouvoir le vendre aussi sur le marché international.
Et en décembre dernier, le Conseil d'État soulignait que 11 des 19 mesures du texte présentaient un caractère permanent, c'est-à-dire conçu pour s'appliquer en dehors de la période des Jeux Olympiques. Le Sénat a également examiné aujourd'hui et adopté en première lecture le projet de loi relatif à l'accélération sur la construction de nouveaux réacteurs nucléaires. Le texte a été amendé supprimant la réduction à 50% de la part du nucléaire dans la production d'électricité d'ici 2035. C'était, il y a un an, tout juste, le scandale Orpea défrayait la chronique et mettait en lumière les conditions de vie parfois difficiles des personnes âgées. Comment assurer une meilleure prise en charge de nos aînés? Une alternative se développe de plus en plus depuis un an, la colocation pour seniors. Une structure de ce type a ouvert dans la petite commune de Méraud, dans le Cher, au mois de décembre. Reportage sur place de Guillaume Martin de Guéret.
C'est bon? Vous en voulez plus? Non, des pommes de terre?
C'est l'heure du repas du midi au menu.
Poulet rôti et une pintade rôtie au coucou.
Maëlle Van Huffel est auxiliaire de vie, c'est la maîtresse de maison.
C'est comme s'ils étaient chez eux, c'est plus cocooning, plus familial, chose qu'on n'a pas forcément en EHPAD. Ça permet une meilleure prise en charge parce que vraiment, on est toute la journée avec eux. Moindre petit changement, nous on peut alerter la famille ou mettre des choses en place pour que ça s'améliore.
Les 6 résidents vivent dans la colocation qui compte 8 chambres meublées de 30 mètres carrés. Les seniors peuvent se retrouver dans les espaces communs. 3 auxiliaires de vie s'occupent de tout. Une présence 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 qui permet de prendre en charge différents profils.
Ça peut être des personnes totalement autonomes mais qui ne souhaitent plus rester seules.
Julie Auberger, animatrice commerciale chez AGV.
Pour rompre l'isolement, ils vont venir ici trouver un peu de lien social. Et puis on a des personnes qui sont en perte d'autonomie, qui ne peuvent plus se lever ni se laver et qui ont besoin d'aide pour tous ces actes de la vie quotidienne. C'est une alternative entre le domicile et l'EHPAD.
Autour de la table, Simone et Simone. Les deux résidentes sont installées depuis peu.
J'étais seule personne à qui causer. Je n'ai pas regret de mon choix.
On sent que chez soi, c'est plus familial, c'est beaucoup plus sécurisant. C'est vraiment l'idéal.
AGV a ouvert 2 colocations pour seniors dans le Cher. D'autres suivront. Il y en a environ 250 en France actuellement.
Un reportage Guillaume Martin de Guéret. La France renonce à de nouvelles dérogations sur les néonicotinoïdes. Ces insecticides étaient interdits depuis 2016 sur le territoire français. Mais depuis 2020, chaque année, ils étaient autorisés par dérogation pour la production de betteraves. Ce ne sera plus le cas. Le ministre de l'Agriculture précise qu'un accompagnement pour des alternatives sera mis en place auprès des producteurs. Hervé Lapie est président de la FDSEA du département de la Marne, gros département producteur de betteraves sucrières. Il n'est pas vraiment convaincu.
Ce que je crains, c'est qu'on apporte des produits alimentaires qui respectent rien les normes qui sont imposées aux agriculteurs français et européens. Donc c'est quand même un sentiment d'injustice et c'est ce qu'on connaît dans les cerises, c'est ce qu'on connaît dans les tomates, c'est ce qu'on connaît dans l'élevage malheureusement, c'est ce qu'on connaît dans le poulet. On importe un poulet sur deux aujourd'hui. Donc on est en train de supprimer tous les moyens de production des agriculteurs et on va faire la part belle aux importations qui respectent pas nos normes. Je pense que le marché, bon, il est pas égal. En Amérique, enfin, on fait de la canne à sucre. Il y a aussi des OGM qui sont acceptés là-bas. Donc il y a toute une forme de compétition qui s'est mis en place. Et même à l'intérieur de l'Europe, on n'a même pas tous les mêmes règles. Nos voisins allemands ont un produit phytosanitaire qui est néonicotinoïde, qui est homologué en pulvérisation. Et nous, on n'a pas le droit. On n'aura pas le droit en France.
L'actualité dans le monde maintenant, bref, la guerre en Ukraine. Le gouvernement allemand va examiner dans l'urgence la demande d'autorisation de la Pologne de transférer 14 chars lourds Léopard 2 à Kiev. Au Liban, le juge chargé de l'enquête sur l'explosion du port de Beyrouth en 2020 continue de défier le pouvoir. Il a inculpé aujourd'hui le procureur général. C'est une décision inédite dans l'histoire du pays. Cette semaine, nous fêtons les 60 ans de la signature du traité de l'Élysée, pilier de la coopération franco-allemande. Un peu partout en France, des célébrations ont lieu localement. Exemple dans la Drôme, où le comité de jumelage de Bourg-les-Valence organise une série d'animations. Reportage Violette Ferreira.
Ici, tout est décoré à l'image de l'Allemagne. Il y a des drapeaux et des cartes des deux villes jumelles de Bourg-les-Valence. Et le jumelage va bien au-delà du simple panneau à l'entrée d'une ville, comme nous l'explique Josette Léora, présidente du comité de jumelage.
Nous avons plusieurs actions. Nous organisons le marché de Noël en France et en Allemagne, dans notre ville de Bourg-les-Valence et dans notre ville jumelle aussi, où on est présent pour faire connaître les activités du jumelage, les produits aussi que nous avons dans chacune de nos villes. Et aussi, nous procédons à des échanges de jeunes étudiants. Par exemple, cette semaine, nous aurons 15 jeunes Allemands qui vont venir pendant 5 jours dans un lycée de Bourg-les-Valence. Ça, c'est très important.
Et entre ces deux cultures, on retrouve de nombreuses similitudes. Antje Aubert est référente régionale au Fonds citoyen franco-allemand.
Il y a plein de choses qui sont similaires, enfin, surtout au niveau culinaire, tout ce qui est charcuterie et puis au niveau culturel. On a énormément de choses à échanger. La culture allemande, elle est très riche comme la culture française, et quand on les met ensemble, en plus, ça donne des jolis résultats.
Und ich wünsche alle Leute, die diese Sendung hören, viel Glück und bitte kommen Sie zu uns zum Besuch.
Voilà, on laissera Violette Ferreira traduire. Je n'ai pas fait allemand en au lycée. Voilà. Allez, on termine avec la course aux Oscars. Elle est lancée. C'est la comédie Everything Everywhere All at Once qui est nominée 11 fois. C'est le film qui, pour l'instant, a le plus de nominations avant la remise des Oscars prévue le 12 mars à Hollywood.